C'est mardi dans le monde.
Radio Star
Berlin.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, la première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène à Amman, en Jordanie, à la rencontre des chrétiens d'Orient. Nous y sommes à l'occasion notamment de la grande exposition sur les chrétiens d'Orient de l'Institut du Monde Arabe. Nous sommes aussi ce soir en Colombie avec Sandy Dauphin, c'est le feuilleton écolo du mardi. Vous découvrirez que la fin de la guerre des FARC en Colombie a des conséquences sur l'environnement. La revue de presse des correspondants de France Inter en Italie, en Grande-Bretagne, juste avant 19h. L'édito du journal Le Monde avec Christophe Ayad et ses indépendances utopiques, peut-être catalanes ou kurdes. Et justement, tiens, ce Kurdistan irakien qui rêve d'être indépendant, nous y allons tout de suite.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Je suis très heureux car mon pays est sur la voie de l'indépendance et c'est un vrai bonheur. Ça m'est égal si une guerre éclate, on doit se sacrifier. C'est mon rêve le plus vieux, celui de notre famille, de notre nation. On veut juste devenir un pays. Nous nous sommes battus pour ça, nous sommes morts pour cela et nous ferons tout pour cela.
Voilà, ce jeune homme qu'on entend, il est sur son vélo avec un magnéto de fortune qui envoie l'hymne kurde dans les haut-parleurs. Il a 20 ans seulement, c'est Omar Waman qui l'a rencontré et il pourra nous le raconter. En tout cas, ce qu'il dit est assez édifiant et sûrement très représentatif de ce qui se passe en ce moment au Kurdistan irakien. On est en train de compter, on aura les résultats du référendum probablement ce soir ou un peu plus tard. J'ai envie de dire qu'importe, puisque le oui l'emportera largement. Mais depuis que ce vote a eu lieu, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, les voisins, eux aussi, et leur communauté kurde sont plus que vigilants. C'est un coup de poker peut-être que celui de Massoud Barzani, le leader kurde d'Irak, que ce référendum, on verra s'il est payant et comment, on verra surtout ce qui peut se passer maintenant. Bonsoir à vous, Olivier Grosjean.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sociologie politique, vous avez notamment écrit « La révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie », c'est publié à La Découverte. Et puis on rejoindra dans un instant Omar Waman qui est à Kirkouk en ce moment, un morceau disputé du Kurdistan et c'est aussi un enjeu important de ce scrutin. Olivier Grosjean, il a ouvert une boîte de Pandore, Massoud Barzani il le savait, hein. Le leader kurde ici, il savait ce qu'il faisait, mais son but c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Bagdad et même au-delà de Bagdad là?
En fait, il est en train de se projeter déjà dans l'après-EI. C'est-à-dire qu'on voit bien...
L'après-État islamique.
On voit bien que l'État islamique est aujourd'hui libéré. Enfin, de grandes zones du Kurdistan irakien, de l'Irak, de la Syrie sont libérées de l'État islamique. Et aujourd'hui, en fait, les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak veulent un petit peu montrer qu'ils existent, qu'ils sont toujours là et que la question kurde n'est pas résolue.
Et alors, l'idée du vote aussi, c'est peut-être de dire, vous parliez de la fin de l'État islamique, ou en tout cas du début de la fin peut-être, c'est aussi dire, attendez, parce que c'est à nous que vous le devez, tout ça. Nous sommes battus, il y a eu des morts, ce sont nos morts, il y en a eu au moins 1800 pendant la bataille de Mossoul, des morts kurdes, c'est aussi le message qu'il envoie, non?
Oui, tout à fait, ils ont participé à la lutte contre l'État islamique, que ce soit les Kurdes, les Peshmerga, c'est-à-dire les combattants kurdes irakiens, ou encore les combattants kurdes syriens, hein, qui sont encore là aujourd'hui, présents lors de la bataille de Raqqa.
Mais alors, est-ce que c'est presque symbolique, en fait, ce référendum? Parce que l'autonomie financière, économique, et on y viendra probablement, elle existe déjà. Est-ce qu'il cherche vraiment l'indépendance, Barzani? Parce qu'il l'a dit lui-même, il dit, ce référendum, il sert surtout à ouvrir des discussions. Mais est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il ouvrira vraiment des discussions?
Non, je pense qu'il se trompe pas de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est un vrai moyen de faire pression, à la fois sur la communauté internationale et sur Bagdad. En même temps, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et puis, dans le même sens, c'est la première fois, et ça c'est vraiment historique, qu'un référendum d'autodétermination a lieu au Kurdistan. Et là, de ce point de vue-là, il a renforcé son aura auprès de la population et il a plutôt mobilisé les troupes, si vous voulez. Parce que on reviendra peut-être dessus, mais ce qu'il y a aussi, c'est que le PDK et Barzani sont assez affaiblis au Kurdistan irakien aujourd'hui, parce qu'il y a une crise politique qui dure depuis plusieurs années.
Allons-y directement, je comptais y venir, effectivement. Mais Barzani, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être au pouvoir, qui ne devrait plus être au pouvoir aujourd'hui. Donc il joue sa carte aussi, ce monsieur.
Oui, tout à fait. Oui, il joue sa carte, il cherche à rassembler même au-delà du PDK, le Parti démocratique du Kurdistan. Et de ce point de vue-là, on voit bien que les autres partis sont plutôt réticents.
Oui, mais personne n'a osé voter non.
Personne n'a osé voter non. Par contre, on parle de 72% de participation. On ne sait pas exactement ce qu'il en est vraiment. Mais en même temps, on sait que, par exemple, à Süleymaniye, qui est plutôt un fief de l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan, on avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient très peu favorable à ce que ce référendum se tienne maintenant.
Mais alors justement, parce que est-ce que vraiment le timing est bon ? Vous disiez qu'il voulait faire pression sur la communauté internationale, il est tout seul. À part Israël, il n'y a pas un autre pays qui a approuvé ce référendum. Donc il est vraiment seul dans cette histoire.
Oui, il est vraiment seul, mais à la fois, les États de la région ont toujours été contre une indépendance du Kurdistan, voire même une autonomie très prononcée. Du coup, voilà, lui a considéré que le moment était venu et que l'éradication de l'EI, de l'État islamique, pouvait aujourd'hui permettre d'engranger, de capitaliser en fait sur la lutte qu'ils ont menée.
Olivier Grosjean, la crainte des voisins, pas seulement d'ailleurs, mais enfin des voisins principalement, donc des Iraniens, la crainte des Turcs, alors des Syriens d'une autre manière, parce que pour l'instant la Syrie, on ne sait pas très bien où elle en est, c'est la contagion. Est-ce que cette contagion est possible ? Est-ce qu'il a ouvert une porte là qui pourrait faire en sorte que d'autres Kurdes demandent leur indépendance à leur tour ?
Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que le Kurdistan est un peu à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on a parfois des tendances à la nationalisation des différentes parties du Kurdistan et des fois des tendances à la régionalisation. Et depuis les débuts de la guerre civile en Syrie, on assiste à une régionalisation sans précédent. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe au Kurdistan irakien, c'est en train de se passer aussi un peu de la même manière, pas exactement, au Kurdistan syrien. On a eu le 22 septembre des élections locales au Kurdistan syrien qui ont été beaucoup moins médiatisées, hein, dont on a beaucoup moins parlé, mais qui en même temps témoignent en fait d'une volonté d'institutionnalisation des Kurdes de Syrie également. Donc une contagion, oui, qui se fait pas exactement de la même manière, c'est-à-dire que là, il était question d'indépendance à propos du Kurdistan irakien. Les Kurdes syriens ne réclament qu'une autonomie vis-à-vis de Damas.
Ça veut dire qu'il n'y a personne pour réclamer un grand Kurdistan tel que pré-découpage de l'Empire ottoman au moment de la Première Guerre mondiale. On n'en est pas là du tout,
non,
en fait.
Non, on n'en est pas là.
Et c'est même impossible, apparemment, d'après ce que vous racontez.
Oui, parce que le Kurdistan est aujourd'hui traversé par différentes forces politiques qui sont aussi en concurrence et en opposition. On parlait du PDK, de l'UPK, ça c'est au Kurdistan irakien, mais on a aussi le PKK, qui est le Parti des Travailleurs du Kurdistan, dont je parle justement dans le livre, pas mal, et qui lui est actif en Turquie, mais aussi en Syrie.
Et qu'on n'entend pas
Iran.
D'ailleurs sur ce référendum, le PKK, qui est très très discret là-dessus.
Oui, effectivement, parce qu'il a plutôt tendance à se dire ça c'est les affaires des Kurdes irakiens, c'est pas les nôtres.
Alors quand même, et avant qu'on aille rejoindre Omar Waman, je parlais de l'inquiétude des voisins, les Iraniens l'ont clairement fait sentir, les Turcs particulièrement, qui ont quand même une arme entre les mains, c'est de couper le robinet.
Couper le robinet du pétrole. Ouais.
Ce qui serait une manière de tirer une balle dans le pied terrible, ça assèche intégralement le Kurdistan si on coupe le robinet ou pas ?
Pardon, oui. De fait, on produit presque rien au Kurdistan. On importe beaucoup de Turquie et on exporte uniquement du pétrole. Donc oui, ce serait un moyen effectivement d'assécher très rapidement l'économie, qui a déjà été très très mise à mal par les avancées de l'État islamique en 2014.
Mais est-ce que les Turcs se tirent aussi une balle dans le pied s'ils coupent le robinet ou pas ? De leur côté, ou est-ce qu'ils ont
c'est
moyen
assez compliqué. Je pense qu'ils ont moyen de faire sans. En même temps, c'est pas sûr que. Enfin, là en ce moment, on est dans les menaces, dans une volonté en fait de contrôler un petit peu ce qui se passe là-bas. C'est pas sûr du tout que les Turcs couperaient le robinet justement. Mais ils ont les moyens de le faire, oui.
Et les Irakiens qui ont dit qu'ils enverraient des troupes n'ont jusqu'à preuve du contraire rien envoyé.
Pour l'instant, il y a aucune troupe de l'armée irakienne dans les zones disputées. L'Iran a dit que il allait fermer sa frontière, ça a été démenti. Après, la Turquie a fait pareil et pour l'instant, c'est plutôt une réussite pour Barzani parce que les voisins n'ont pas vraiment bougé, l'État irakien n'a pas vraiment bougé et on nous avait promis, on craignait des heurts en fait à Kirkuk ou dans les zones disputées, des heurts entre Arabes, Turkmènes, Kurdes qui n'ont pas eu lieu jusqu'à présent.
Et si justement les voisins n'ont pas bougé, est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas déstabiliser la région, c'est bien la crainte qu'ils ont, donc on laisse les choses en l'état ou c'est parce que finalement ces Kurdes qui sont en train de réclamer leur indépendance, ça leur fait pas vraiment peur.
Ah non, je pense que ça peut leur faire peur. Ça peut leur faire peur. Par contre, j'imagine qu'il y a pu avoir aussi des pressions un petit peu internationales, notamment des États-Unis ou d'autres, pour que le gouvernement irakien justement soit dans une certaine mesure. Par contre, en ce qui concerne l'Iran et la Turquie, je vois mal des pressions internationales. Personne ne peut vraiment faire pression sur la Turquie ou l'Iran pour éviter des accrochages avec les Peshmerga de Barzani.
Olivier Grosjean, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on rejoigne Omar Waman qui nous attend à Erbil. Bonsoir Omar.
Bonsoir Fabien.
Je vous ai mis à Erbil, je vous ai mis à Kirkuk tout à l'heure, je suis désolé, vous y étiez hier et vous êtes rentré à Erbil, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut avoir une meilleure liaison. C'est intéressant, ceci dit, cette région d'où vous revenez, parce qu'on est dans ce qu'on appelle la région disputée, et j'ai presque envie de dire une région sauvée en fait, parce qu'à l'arrivée de Daesh, les soldats irakiens eux sont partis, et ce sont les Kurdes qui ont sauvé leur propre région. Est-ce que c'est le fond de l'enjeu de ce référendum aussi dans ces régions-là ?
C'est une région qui est extrêmement riche en pétrole, aux alentours de 20 à 25% des réserves pétrolières de l'Irak, c'est pas rien. Et donc, si vous voulez, cette province de Kirkouk pourrait donner les moyens de l'indépendance. C'est vraiment la caisse, c'est vraiment la banque de ce Kurdistan. Donc, effectivement, cette ville de Kirkouk, cette province de Kirkouk, au sud d'Erbil, est une province qui a été le fruit de toutes les convoitises. Saddam Hussein, à l'époque, il a arabisé cette région, il a chassé les Kurdes qui étaient majoritaires. Entre-temps, ils sont revenus à la faveur de la chute du régime de Saddam Hussein. Ils sont aujourd'hui majoritaires avec une importante communauté turkmène. Il y a également des Arabes. Et il se trouve que lorsque Daesh a fait une offensive fulgurante en juin 2014, ils ont pris Mossoul et puis ils ont poursuivi leur route en direction des champs de pétrole de Kirkouk. Et là, il y a eu une réalité qui est celle d'une débâcle totale, une déroute totale de l'armée irakienne qui a fui devant cette offensive fulgurante. Et bien, si les Peshmerga kurdes n'étaient pas intervenus à ce moment-là, et bien Daesh aurait pris cette ville de Kirkouk. Et donc, c'est un fait accompli. Entre-temps, effectivement, les Kurdes se sont installés et depuis, ils y sont encore. Bagdad considère qu'il va falloir négocier. Mais il y a eu également la question du pétrole, à savoir que dans le cadre de l'État fédéral irakien, eh bien Bagdad reversait 17% du budget de l'Irak aux Kurdes, au gouvernement kurde. Mais les Kurdes se sont mis à vendre leur pétrole sans passer par Bagdad. Donc Bagdad a coupé les vivres à cette région, à cette province kurde, qui, à la suite, a vu la chute des prix du baril de pétrole, et bien faire en sorte qu'il y avait un manque à gagner. Beaucoup, beaucoup d'argent et bien ont manqué dans les caisses kurdes, et ce qui plonge aujourd'hui cette région kurde dans une situation catastrophique d'un point de vue économique.
Merci beaucoup Omar Ouamana à Erbil pour France Inter. Une petite dernière question, Olivier Rougeon. D'abord, ce fameux accord effectivement entre les Kurdes et Bagdad dont parlait Omar à l'instant, est-ce qu'il peut être rediscuté à la faveur de ce référendum? Est-ce que d'autres négociations vont être ouvertes par Bagdad avec les Kurdes ou pas du tout?
Alors, il y a des éléments qui étaient déjà inscrits dans la Constitution, donc ça c'est pas négociable. Le budget de 17% qui doit être reversé, ça c'est quelque chose qui est constitutionnel. De même, il devait y avoir dans la région de Kirkouk un référendum d'autodétermination des habitants de la ville pour savoir s'ils devaient être rattachés au gouvernement central ou au gouvernement régional kurde. De fait, c'est peut-être là-dessus aussi que des négociations peuvent avoir lieu. À savoir le rattachement de Kirkouk au Kurdistan, je pense que c'est quelque chose que Bagdad n'acceptera pas.
Une toute dernière chose, vous parliez tout à l'heure de la fin ou pas de l'État islamique. La nature a horreur du vide, elle a horreur de la déstabilisation aussi. Est-ce que aller trop vite, est-ce que ce référendum, est-ce que les débuts de négociations ou pas entre Kurdes pourraient être dangereux, et notamment pour un retour éventuel, à votre avis, de Daesh? On sait que c'est pas fini tout ça, c'est encore extrêmement fragile dans ces régions-là. Est-ce que le risque il existe? Est-ce qu'il est vraiment là?
Le risque il existe. Hein. Après, est-ce que c'est vraiment le référendum qui le provoque, ou est-ce que c'est tout simplement l'instabilité chronique de l'Irak et de la région? Là, je ne suis pas complètement sûr, oui.
Allez, Olivier Grosjean, vous avez écrit La Révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde, et merci à Omar aussi qui nous appelait d'Erbil.
Merci.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde nous emmène à Amman, chez les chrétiens d'Orient, avec vous Isabelle Pasquier.
Oui, je suis allée à Amman, dans une école qui accueille des enfants réfugiés chrétiens d'Irak.
Et à suivre aussi, étonnant, tiens, la fin de la guerre entre les FARC et la Colombie concerne l'environnement également. Pourquoi, Sandy Dauphin?
Eh bien, parce que la paix avec les FARC a aggravé la déforestation.
Et ce sera le feuilleton écolo du mardi. C'est tout à l'heure à 18h40. À tout à l'heure, Florence Paracuellos arrive la première. Et c'est dans 3 minutes, Un jour dans le monde continue avec Portugal de Man, Philippe Sill.
On myself.
yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now.
Allez, Feel It Still, le groupe s'appelle Portugal de Man.
Power Hit Radio.
Magical Fan.
Terra de la Tula.
Desservi pour info.
60 minutes.
Allez, le rendez-vous de Florence Paracolos avec l'info internationale qui vous a échappé, mais que Florence s'est rattrapée au vol sous les radars ce soir. Florence s'intéresse d'abord au sort des réfugiés transférés du Pacifique aux États-Unis.
Ce matin, 24 premiers migrants, Fabienne, ont enfin pu quitter l'île de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est là et aussi sur l'île de Nauru que l'Australie parque ceux qui essayent d'atteindre ses côtes, moyennant subvention à la Papouasie. Ces gens sont des Iraniens et des Afghans essentiellement. Ils sont plus de 1200. Ils sont là depuis 4 ans pour certains parce que l'Australie n'est pas une terre d'accueil. Non. Et pour que ce soit bien clair, le commandant de l'opération Sauver les frontières, le dit face caméra, en uniforme, dans une campagne diffusée depuis 3 ans.
If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home.
Air Martial, il s'adresse directement à ceux qui tenteraient d'arriver par bateau. Vous ne serez jamais accueillis en Australie. Ni les familles, ni les enfants, ni les travailleurs qualifiés. Personne sans visa, pas la peine.
Make Australia home.
Voilà, vous ne ferez pas de l'Australie votre chez-vous, qu'importe la Convention de Genève dont le pays est signataire, ni les considérations humanitaires. La détention illimitée de ces réfugiés dans les îles du Pacifique est un calvaire dénoncé par les ONG et l'ONU. Du coup, le camp de Manus va fermer, mais que vont devenir ces réfugiés? Ils peuvent toujours demander l'asile à la Papouasie qui le leur accorde, mais la cohabitation avec les Papous est impossible, trop dangereuse pour des migrants souvent attaqués à la machette. Alors leur seul espoir, ce sont les États-Unis et cet accord signé par Barack Obama il y a un an avant de partir. Trump, après l'avoir dénoncé, se décide à l'appliquer, d'où ce premier transfert aujourd'hui. D'autres suivront, mais on ne sait pas combien ni ce que deviendront ceux qui restent.
Au Brésil maintenant, avec une victoire des écolos contre le gouvernement Temer.
5 semaines de pression et Michel Temer, le président brésilien, a fini par céder la réserve naturelle de Renca. 4 millions d'hectares de forêt amazonienne, sa biodiversité, ses tribus indiennes vont rester préservées. Elles ne sont pas passées loin, Fabienne, des foreuses et des pelleteuses, puisque le président fin août avait annulé le statut protégé de la zone pour permettre à des compagnies privées d'exploiter son sous-sol riche en or, en fer, en cuivre et en manganèse.
Nós precisamos preservar et respecter la Amazonie.
Là, Fabienne, c'est un Indien Wajapi qui explique que sa forêt est un poumon de la planète. Avec lui, les ONG se sont mobilisées, Greenpeace, le WWF, des artistes, Leonardo DiCaprio ou Gisèle Bündchen, célèbre top modèle brésilienne, lançant sa fondation pour l'Amazonie début septembre au festival Rock in Rio.
Sonho com um dia em que encontraremos o equilíbrio.
Elle rêve du jour où on trouvera l'équilibre entre être et avoir, entre prendre et donner, entre détruire et préserver. Elle et les autres ont eu pour l'instant raison des projets du président Temer, qu'il n'en est pas à sa première dérégulation environnementale. Mais certains pensent que la guerre de l'Amazonie n'est pas gagnée. Ils soulignent que Temer, poursuivi pour corruption, est très lié aux lobbies industriels. Lui qui a pris la suite de Dilma Rousseff, destitué, vous en souvenez, pour avoir maquillé les comptes publics brésiliens.
On parle de casino maintenant et ce serait pas un mot italien cette affaire.
Prova la slot che ti fa vincere fino a 8 milioni di euro, prelevabili subito. Gioca ora su 888.it, il tuo casino, ma senza esagerare.
joue au casino sans exagérer. 17 pubs pour un site en ligne. Le problème, c'est que les Italiens manifestement exagèrent. Ils ont dépensé l'an dernier 96 milliards d'euros en jeux de hasard. C'est 8 fois plus qu'il y a 8 ans. Et tenez-vous bien, ça correspond à 132 euros par mois et par personne en moyenne. C'est une étude qui a comptabilisé tout ça, commandée parce que les jeux font des dégâts, des ravages. Même 24 000 Italiens officiellement soignés pour dépendance, mais il serait des centaines de milliers à en souffrir. Les autorités étudient des pistes pour limiter la tentation. En attendant, l'Italie est devenue le premier pays au monde du point de vue du rapport entre les pertes au jeu et le produit intérieur brut. Les joueurs et leurs pertes donc ont contribué à 0,8% du PIB l'an dernier. On ne sait pas si ça va les consoler.
C'est fou, c'est ce qui s'appelle un impôt volontaire. En tout cas, Florence Paracolos, merci beaucoup, à demain.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes à Amman, en Jordanie. Amman, mais dans un endroit très particulier. Vous l'entendez, cette petite cloche, c'est celle d'une école qui accueille des réfugiés d'Irak. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir Fabienne.
On parle des réfugiés chrétiens d'Irak et on va expliquer pourquoi d'ailleurs vous les avez rencontrés juste après votre reportage. Nous sommes dans le quartier de Marka, une école donc de 150 élèves.
Oui, c'est un quartier qui est dans la banlieue nord-est d'Amman, un quartier pauvre à majorité musulmane et qui accueille des centaines de familles de réfugiés irakiens, des chrétiens qui viennent de la région de Mossoul. Pour eux, le choix, c'était comme pour tous les autres, la conversion à l'islam, la valise ou le cercueil. Et c'est dans ce quartier à Marka qu'un prêtre catholique, le père Jahar, a ouvert une école non officielle, une école informelle.
Et vous nous faites entrer donc dans cette école, Isabelle, et c'est l'heure de la récréation.
Oui, les enfants sont en uniforme, pantalon bordeaux, chemisier blanc, nœud pape. Pour les filles et les garçons, le père Jahar sonne la fin de la récré.
On baisse les bras, mettez de la distance entre vous, on se prépare tous ensemble à réciter la prière.
La séquence est très émouvante car cette prière que vous entendez est en araméen, la langue du Christ.
Je m'appelle le père Khalil Jahar, je suis curé de cette petite paroisse à l'est d'Amman. Quand je suis arrivé, il y avait une grande vague de réfugiés qui sont arrivés de l'Irak. Et c'était le 4 août 2014. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Or, mon devoir, c'est de protéger le droit de l'enfant à l'éducation. Donc tout de suite, j'ai commencé à monter une école. J'avais pensé que c'était une trentaine, une quarantaine. Et tout d'un coup, 200 élèves. Et j'ai sur la liste d'attente, entre 100, 150 élèves. Mais je n'ai pas les moyens pour servir tous ces enfants. Donc j'ai invité aussi les maîtresses irakiennes qui sont venues avec les réfugiés, s'ils peuvent nous rejoindre, hein, pour éduquer ses enfants.
On peut aller voir les enfants dans une classe ?
Alors,
on vous suit ?
Bien. Maintenant, on traverse la cour et on va dans le premier étage où nous avons 8 classes. Et tous sont des élèves irakiens, chrétiens irakiens. Alors, on va aller à la safe, un peu, On va aller voir les madaris. D'accord ? Matti, comment vas-tu ? Ça, c'est le plus petit de toute l'école. Il s'appelle Matti, Mathieu. Il a 4 ans. Il a tellement pleuré à la maison pour qu'il puisse être à l'école. C'est pourquoi j'ai fait une exception et je l'ai accepté.
Voilà, il récite bien, il est mignon, le petit Mathieu. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants de cette école, Isabelle ?
Alors, les élèves apprennent l'arabe, les sciences et les maths sont enseignées en anglais pour les préparer à leur futur exil. Il y a même des cours de démocratie avec simulation d'élections pour ou contre les vacances. Ils ont majoritairement voté contre les vacances.
Ah non,
parce
c'est
que
pas
ça,
vrai.
Ça n'a aucun sens pour eux. Et ils savent l'importance, la richesse d'être à l'école, la chance. Et tout de suite, donc, on ouvre la porte de la classe des grands.
Je m'appelle Yacoub, je viens de Mossoul. On est parti parce qu'on n'était plus en sécurité à cause de Daesh. Mais on a été plusieurs fois déplacés. La première fois, c'était en 2003, l'année de ma naissance. En fait, je n'ai jamais connu la paix. J'ai passé toute ma vie entre Bagdad et Mossoul.
Et c'était parce que vous étiez chrétien ?
Oui, nous étions menacés. La situation a changé et en tant que chrétien, les gens nous détestaient alors qu'avant, c'était différent. On était respectés. Alors, je me demande comment Daesh a fait pour trouver où étaient les maisons des chrétiens. On a été dénoncés par nos voisins musulmans.
Alors, comment tu vois ton avenir ? Tu as envie plutôt de rester en Jordanie ? Tu veux rentrer en Irak ou tu veux aller beaucoup plus loin à l'étranger ?
C'est impossible que je revienne un jour en Irak. Il n'y a plus de sécurité. Je pense que l'Irak, c'est une civilisation qui est arrivée à sa fin, comme les anciennes civilisations disparues. Moi, je voudrais partir étudier la génétique en Australie, mais je ne crois pas que je vais réussir, car depuis ici, ce sera trop difficile.
Et la prof qui enseigne les sciences, c'est aussi une réfugiée irakienne.
Je m'appelle Mahassin George. Nous venons tous de la plaine de Ninin. On est là à cause de Daesh. Quand Daesh est arrivé, on nous a donné un ultimatum. On devait quitter la région en quelques heures. Alors on a dû partir en pleine nuit.
7 nuits du 6 août 2014, on était au moins 150 000 à partir. C'est la pire nuit de ma vie. Mais on croyait qu'on allait revenir. On avait juste les habits qu'on portait sur nous. Et on n'est jamais revenu.
Ici, on a été bien accueillis par la Jordanie. Je remercie le peuple jordanien et le roi et cette école qui nous a donné les moyens de poursuivre l'éducation de nos enfants. Parce que sans éducation, on est coupé de tout. On perd tout.
Vous n'avez aucun espoir et aucune envie de repartir en Irak ?
Non, je n'ai pas envie de retourner là-bas. Maintenant, toute ma famille est à l'étranger, nos maisons ont été pillées, brûlées, bombardées et il n'y a pas de sécurité. Comment pourrais-je revenir ?
Et puis une dernière chose, Isabelle, cette école, elle a été remarquée au niveau international.
Oui, le père Jarre a été classé parmi les 10 héros de l'année par CNN. Devant les grilles de l'école, les parents attendent un visa entre colère et désespoir. Mais Yacoub, Lina, Nabil et le petit Mati, tous ces enfants, eux, peuvent commencer à rêver à une autre vie.
Isabelle Pasquier, merci beaucoup. Je voudrais dire que si on parle des chrétiens d'Orient qu'on a, j'allais dire, découvert, non, qu'on a redécouvert en les voyant fuir l'Irak et la Syrie, c'est aussi parce qu'il y a une exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris qui commence aujourd'hui mardi, c'est jusqu'au 14 janvier. On vous conseille évidemment d'y aller. Puis j'ai aussi entre les mains un numéro spécial de La Croix, un hors-série qui retrace ces 2000 ans d'histoire et qu'on vous conseille aussi. Allez, on reste un peu dans la région, nous sommes au Liban, pas très loin, Sobkhil, la chanson s'appelle Tango.
تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاذ أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت فداك انت
Top Kills, la chanson s'appelle donc Tango.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série dans Un jour dans le monde, tous les mardis, le pire et le meilleur de ce que le globe nous offre en matière de préservation de l'environnement. Bonsoir à vous Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Étonnante Sandy, cette histoire que vous allez nous raconter, une relation de cause à effet qu'on n'avait pas soupçonné. Nous sommes en Colombie où les FARC ont lâché les armes, on le sait, pour devenir un parti politique. Et vous, vous dites que cet accord a des conséquences sur l'environnement. Expliquez-nous ça.
Eh oui, le 26 septembre 2016, cérémonie solennelle, les deux ennemis de toujours ratifient l'accord de paix. Rodrigo Londoño, le chef des FARC.
Je présente au nom des FARC mes plus sincères excuses à toutes les victimes du conflit pour toute la douleur que nous avons causée dans cette guerre.
Juan Manuel Santos, président colombien.
L'horrible nuit de violence qui a recouvert le pays de son ombre pendant un demi-siècle est terminée. Le jour se lève avec beaucoup de promesses.
Avec cet accord historique, des milliers d'hectares de forêts sous le contrôle des FARC sont pour ainsi dire libérés. La grande question, Fabienne, est de savoir comment la Colombie va les exploiter.
Or, pour l'instant, Sandy, on assiste surtout à une déforestation galopante.
Oui, en 2016, la déforestation a augmenté de 44% par rapport à 2015. Chaque heure, 20 hectares de forêts naturelles disparaissent en Colombie, chiffre de l'IDEAM, l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales, son directeur Omar Franco.
La forêt couvre 52% de la surface de la Colombie. Et en 2016, nous avons perdu près de 180 000 hectares. Et les principales causes de la déforestation sont les cultures illégales, la construction d'infrastructures routières sans permis, les feux de forêt, l'extraction minière sauvage et encore l'élevage intensif.
Une catastrophe pour la biodiversité, mais aussi pour le climat, car les forêts sont des puits carbone, les arbres absorbent le CO2.
Et en Colombie, certains pensent même que la forêt était finalement mieux protégée sous les FARC.
Oui, ce reportage télé évoque le déboisement de forêts tropicales humides de Caquetá, dans le sud du pays, depuis la sortie des FARC. Ariel Avila est militant au sein de l'association Paix et Réconciliation.
Ce qui s'est passé au dernier trimestre 2016 et toute cette année 2017 est un massacre environnemental. Quand les FARC opéraient dans ces zones, ils occupaient des hectares de forêt. Depuis qu'ils sont partis et qu'ils sont massivement arrêtés, la déforestation a augmenté de façon vertigineuse.
Alors, les FARC protecteurs de la nature, c'est allé un peu vite. C'est surtout la peur de la guérilla qui a maintenu les bûcherons illégaux à distance toutes ces années. Et puis, il faut savoir aussi que les FARC ont même promu dans certaines régions le déboisement pour la culture de la coca, matière première de la cocaïne.
Du coup, le gouvernement colombien demande de l'aide internationale.
Oui, la France a d'ailleurs été sollicitée, plus particulièrement l'Agence française de développement. Gaël Giraud, économiste en chef.
C'est le ministère Hacienda qui est le ministère des Finances et le ministère de la Planification, c'est-à-dire de la Planification, qui joue le rôle du Premier ministre, qui nous ont demandé de les aider à réfléchir en utilisant le modèle macroéconomique de l'agence, qui s'appelle le modèle GEM, à la manière la plus intelligente dont la Colombie pourrait exploiter les sols qui viennent de se libérer, de façon à la fois nourrir tout le monde et pourquoi pas faire de l'exportation, mais aussi lutter et s'adapter contre le dérèglement climatique.
Et cet été, la Colombie a envoyé un mauvais signal, une réduction des deux tiers du budget du ministère de l'Environnement.
Sandy Dauphin pour le feuilleton écolo tous les mardis dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
France Inter. Un jour dans le monde.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Qu'est-ce qui traîne sur le net en Italie et au Royaume-Uni? C'est la revue de presse des correspondants de France Inter, au nord, au plus proche, géographiquement. Enfin, vous me direz, ça dépend de quel point de vue on se place. Bonsoir Rome et bonsoir Mathilde Inverti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, un happy end, en anglais, en italien dans le texte, qui se profile dans le dossier STX.
Oui, en effet, le mot de la fin sera connu demain lors du sommet franco-italien à Lyon. Personne ne veut enlever à Emmanuel Macron et Paolo Gentiloni le plaisir de l'annoncer, écrit Il Messaggero ce matin, mais l'accord existe bel et bien selon le quotidien romain. Alors que contiendra l'accord de demain? On parle du rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire par le groupe italien Fincantieri. Eh bien, selon le Corriere della Sera, qui fait parler une source italienne proche du dossier, les Français accorderaient les 51% aux Italiens. Et la nouvelle société qui naîtra de l'accord STX Fincantieri sera à majorité et à contrôle italien. La crise entre Paris et Rome avait éclaté avec la nationalisation temporaire de STX France cet été.
On s'en souvient. L'homme de la semaine, Mathilde, c'est le gendre idéal. C'est même un gendre 5 étoiles.
Oui, il s'appelle Luigi Di Maio. Il fait la une depuis ce week-end. Il a le cheveu impeccable, les dents ultra blanches, toujours le costume et la cravate. 31 ans seulement, Luigi Di Maio. Il sera le candidat du mouvement 5 étoiles aux prochaines élections en Italie. Il a accordé Di Maio ses premières déclarations en tant que candidat à la presse étrangère. À Radio France notamment, c'était dimanche à Rimini après sa désignation. Des propos repris ensuite par la presse italienne, dont la Stampa. Di Maio a clarifié la position du mouvement sur l'Europe, alors que les 5 étoiles, mouvement anti-système et anti-élite, est volontiers qualifié d'eurosceptique. Le candidat avance le projet de transformer les traités européens. Et si cela n'est pas possible, eh bien il organisera en Italie un référendum sur la sortie de l'euro, mais seulement en tout dernier recours. Et puisqu'on regarde l'Europe, Fabienne, l'Italie a été secouée elle aussi par le résultat des élections allemandes. L'alliance d'Angela Merkel avec les libéraux fait craindre ici un changement de ton de l'Allemagne. Selon Walter Veltroni, figure du Parti démocrate et ancien maire de Rome, interrogé par le Corriere della Sera hier, eh bien l'Allemagne risque de pousser vers plus d'austérité en Europe.
Et puis sinon, le scandale du moment chez vous parle de corruption à l'université.
Il a éclaté hier avec l'arrestation de 7 professeurs d'université du sud au nord de la péninsule. 22 en tout ont été suspendus de leurs fonctions. D'après l'accusation reprise dans tous les médias, la commission qui attribue les habilitations en droit fiscal, c'est-à-dire le droit d'enseigner cette matière en Italie, cette commission était corrompue. Ses membres se mettaient d'accord entre eux sans considérer les compétences et les CV des professeurs. Tout est parti de la plainte déposée par un candidat malheureux, un candidat italo-britannique. Et ce n'est pas un hasard, d'après la Stampa. Les ententes entre barons universitaires relèvent de pratiques anciennes et éprouvées en Italie. Seul un chercheur de sang anglais pouvait s'en indigner et le dénoncer, constate avec une grande amertume le troisième quotidien d'Italie.
Mathilde Imberti, merci beaucoup. Tiens, puisqu'on parle de sang anglais, bonsoir Londres et bonsoir à vous Antoine Gignot.
Bonsoir à tous.
Antoine, on monte d'un cran dans la bataille autour du Brexit avec des insultes. C'est à la une des tabloïds aujourd'hui.
C'est élégant, c'est distingué, ça a le mérite d'être clair. Je vous donne le titre du Sun, qui tirera plus de 3 millions d'exemplaires ce soir. Screw EU, on emmerde l'Union européenne.
Et la raison, vous me direz, c'est clair. Hein.
C'est sûr, c'est la raison de ce courroux, c'est la visite de Donald Tusk. Le président du Conseil européen était à Londres aujourd'hui, il devait rencontrer Theresa May. Il a fait une courte déclaration. Le gouvernement britannique, a-t-il dit, semble avoir compris qu'il n'aurait pas le beurre et l'argent du beurre. Et il a ajouté, je dirais qu'il n'y a pas suffisamment d'avancées pour le moment sur le dossier, mais on y travaille. Injustice, crie le Sun. Après le discours de Theresa May à Florence la semaine dernière, on attendait mieux. La première ministre se bat pour faire bouger les lignes. Donald Tusk, lui, est qualifié par le tabloïd d'homme borné.
Et c'est la montée de ces discours extrémistes, hein, un peu partout en Europe, que pointe le Financial Times.
Encore des affrontements, encore des mots durs, des voix extrémistes qui se font entendre un peu partout, y compris désormais en terre germanophone. C'est ce qu'analyse Gideon Rachman dans le Financial Times. L'an dernier, dit-il, un ouragan populiste secouait l'Occident. Les États-Unis élisaient Trump, la Grande-Bretagne plongeait dans le Brexit. François Hollande était trop impopulaire pour rester président, mais l'Allemagne restait un îlot préservé. Elle a cette fois perdu son immunité contre ce mouvement européen anti-establishment.
Et même la gauche britannique, Antoine, n'est pas épargnée.
Avec cette polémique au Congrès des travaillistes autour de la liberté d'expression, un intervenant aurait dit hier, nous devrions pouvoir discuter de tout, c'est dans le Guardian, y compris de la Shoah et du fait qu'elle ait existé ou non. Réaction immédiate du numéro 2 du parti, c'est-à-dire dans le quotidien de gauche, Tom Watson promet de nouvelles règles pour stopper les propos antisémites et bannir les individus du parti.
Allez, un petit peu d'optimisme quand même pour finir sur une autre note, c'est le magazine GQ qui donne l'homme de l'année et c'est Sadiq Khan.
L'homme politique de l'année, oui, le maire de Londres avec une main tendue, ferme au milieu de furieux orages, au milieu des tempêtes que traverse le Royaume-Uni. Sadiq Khan inébranlable face aux tweets de Donald Trump, face aux attentats, face aux attaques racistes. Et cette citation, l'une des caractéristiques formidables de notre ville, écrit le maire de Londres, c'est que lorsqu'on nous donne le choix entre l'espoir et la peur, nous choisissons d'espérer.
Antoine Gignot, dans Un jour dans le monde, merci mille fois. L'édito du Monde, c'est maintenant. L'édito du journal Le Monde avec vous, Christophe Ayad, chef du service international du Monde. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne. Alors, hier c'était les Kurdes, dimanche ça sera les Catalans. Il est déjà rare que un pays proclame son indépendance, mais alors deux la même semaine, c'est carrément inédit. Deux référendums d'indépendance et sans surprise, le oui va l'emporter à Barcelone, peut-être par défaut, comme il l'a déjà très largement emporté à Erbil, au Kurdistan d'Irak, cette fois-ci par adhésion. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont tous ? On croirait des adolescents, ils veulent partir, quitter la maison, voler de leurs propres ailes. Comme si l'Europe n'avait pas assez de problèmes comme ça avec le Brexit, les élections allemandes, la cassure entre Européens de l'Est, de l'Ouest, et maintenant donc on va se retrouver avec un nouveau pays au sud-ouest de la France, la Catalogne, qui va devoir tout renégocier, l'euro, les traités, les frontières. Quant au Moyen-Orient, c'est pas comme s'il n'y avait pas assez de problèmes comme ça. La guerre en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, les chiites, les sunnites, et maintenant les Kurdes. Ben oui, un nouvel État. Les Kurdes, ils vivent déjà sur quatre pays, la Turquie, l'Irak, la Syrie, l'Iran. Mais là, ce sont les Kurdes d'Irak seulement qui se sont prononcés. Donc évidemment, l'État irakien n'est pas d'accord, et puisque les Kurdes revendiquent des territoires que les Arabes considèrent comme les leurs. En particulier, la ville de Kirkuk, très riche en pétrole. Et puis si les Kurdes d'Irak se proclament indépendants, bah pourquoi pas ceux de Turquie, ou d'Iran, ou de Syrie ? Et là, ce serait la remise en cause de toutes les frontières régionales dans une région qui explose déjà.
Mais alors quand même, Christophe, pourquoi ces demandes d'indépendance ?
Le problème, c'est que dans le cas de la Catalogne, comme dans celui du Kurdistan, on a affaire à deux revendications anciennes, légitimes. Chacun de ces peuples a sa langue, son identité, des institutions, une longue expérience d'autogestion et des ressources économiques. Ce sont des pays assez riches. Et même si dans le cas catalan, l'indépendantisme a été en sommeil jusqu'à récemment, il s'appuie sur une longue histoire qui a commencé en 1714. Donc c'est assez ancien. Quant aux Kurdes, on va pas rappeler toutes les horreurs dont ils ont été victimes. Il suffit de parler de Saddam Hussein. Il suffit aussi de parler du traité de Sèvres qui leur avait promis un État pour 2 ans plus tard qu'il leur soit retiré au traité de Lausanne. Eux, ils n'ont pas oublié. Donc voilà pour l'histoire. Il y a l'histoire, mais il y a aussi des gouvernements centraux particulièrement butés et opposés à toute discussion sur l'indépendance. Pour des questions de principe, mais aussi pour des questions de gros sous, évidemment. C'est pas comparable, mais bizarrement, Madrid a été presque plus ferme dans le cas du référendum kurde, du référendum catalan, que Bagdad avec les Kurdes. Les urnes ont été saisies, le matériel électoral est confisqué, les finances sont bloquées, la justice est entrée en action. En Irak, bien sûr, le jour où ça se tendra, ça sera carrément la guerre.
Mais alors, sur quoi vont déboucher tous ces référendums ?
Dans les deux cas, celui de la Catalogne comme le Kurdistan, l'indépendance, en fait, elle n'est pas pour demain. Ne serait-ce que parce que très peu de pays au monde sont prêts à les reconnaître, et surtout pas leurs voisins. En fait, ce qui vient de se passer au Kurdistan, ce qui va se passer en Catalogne, ce sont non pas des référendums de proclamation, mais des référendums destinés à poser un rapport de force pour négocier pour l'avenir. Reste à savoir si le message des Catalans et des Kurdes sera cette fois-ci entendu.
Merci beaucoup Christophe Ayad du journal Le Monde. Le 18-20 continue sur France Inter avec le 19h et le téléphone sonne à tout de suite.